Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show de vent exceptionnel pour le Festival international du film de Muret. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Tu dois te demander pourquoi cette musique, parce que comme c'est un show de vent, normalement on a show that stay ou show that go. Et là tu dois te dire, mais pourquoi cette musique spéciale? Bah parce que c'est un événement spécial aujourd'hui, on va parler du Festival international du film de Muret avec Jo Loubet. Bonjour Jo.
Bonjour.
Et cette musique, eh bien, c'est la musique du festival.
Oui.
Qui est devenue la musique de notre émission, ma préférence, parce qu'on est tombé amoureuse de cette musique. Alors c'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'était l'occasion.
Tout à fait.
Un show de vent exceptionnel avec cette musique. Alors Jo, il y a eu une sacrée préparation encore pour ce nouveau festival. Oui. Ça a été très dur. 200 films, c'est ça?
On a vu près de 200 films. Bon, on a sélectionné finalement une cinquantaine autour. Hein. Mais c'est toujours très compliqué de faire des sélections. C'est des coups de cœur et puis c'est mal au cœur aussi de pas garder tel ou tel film. Mais on essaie d'avoir une certaine ligne. On privilégie quand même les films qui nous parlent de la condition féminine et des femmes. Ça c'est vrai, et qui nous parle de problèmes dans le monde, donc de problèmes finalement qui nous touchent tous et qui nous concernent tous. Et l'autre démarche, c'est de se dire que nous proposons que des films d'auteur, c'est vrai, mais que le public qui va aller voir ces films va être emporté, emballé, il va rire, il va avoir de l'émotion, il va sortir avec un vécu, quelque chose, une rencontre avec un film, et qui ne pourra plus dire « Ah, le film d'auteur, c'est casse-pied, c'est ennuyeux, c'est... » Voilà.
Bon, j'imagine que tu as tes coups de cœur, hein. On va pas en parler personnellement, mais je suis sûre qu'il y a au moins un ou deux films qui te sont rentrés là et que tu as dit, c'est pas possible, il faut faire la sélection avec ces deux films-là.
Tout à fait. Tu veux que je t'en
parle? Oui, bien sûr.
D'abord, c'est le film Ouverture qui nous a beaucoup intéressés, parce que c'est Claire Vassé qui est d'abord écrivain, hein, qui est critique de cinéma positif, avec c'est son premier film. Et il est tourné où? À Toulouse.
Mais oui.
Et on voit les toits de Toulouse, on voit Toulouse, on voit des appartements à Toulouse, et avec deux comédiens magnifiques qui sont Émilie Dequesne et Max Boublil qui se répondent magnifiquement. Et ça, c'est une comédie qui paraît comme ça tout à fait superficielle et qui ne l'est pas, et qui est finalement une gravité et certainement des échos avec la vie de la réalisatrice, mais je ne veux pas en parler. Mais je pense, et donc c'est un film qui finalement nous a alertés par sa légèreté et sa gravité.
Alors, ce sera le film d'ouverture le samedi 11 novembre à 21h et en présence de la réalisatrice Claire Vassé et Max Boublil.
Oui, donc ils viendront tous les deux. Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui ont participé au tournage, des comédiens toulousains ou techniciens qui viendront voir le film et découvrir le film. Et pour nous, cette histoire nous a beaucoup intéressés parce que c'est assez rare de voir le point de départ qui est assez étonnant, puisque c'est un couple qui s'aime, pas de problème, qui a fait un enfant, mais qui ne vit pas ensemble et qui a décidé de préserver sa vie amoureuse et son désir et son finalement tout ce qui fait l'amour en quelque sorte, de le préserver en étant dans deux appartements séparés. Avec quelques petites divergences, il y en a un qui mange plutôt des plats surgelés et l'autre qui cuisine plutôt avec des légumes. Enfin, c'est des détails tout ça. L'un fume, l'autre pas, bon, c'est des détails. Et ça marche magnifiquement bien, ils sont ravis, alors que dans leur entourage, tout le monde dit « c'est pas possible ». Et il va y avoir des petits grains de sable qui seront pas du tout ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire que l'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Non, des petits grains de sable qui vont faire que ça ne... Ça
que la compliqué. Mécanique... Ouais. Ça va y avoir des rouages un peu,
voilà, ça
des
va
petits
être
problèmes.
Compliqué. Ça va être compliqué. Et je trouve que c'est la partie plus grave du film où arrivent des choses plus graves. Et ça, je trouve que ça nous emporte et que le film nous emporte dans une espèce de truc vaporeux et puis après plus grave et puis qu'on s'en rend presque pas compte, on rentre dedans et c'est magnifique.
Bah oui, en tout cas, ça nous donne envie hein, d'être présents, nous, à la soirée d'ouverture le samedi 11 novembre. Oui. Alors, en préquel de cette soirée d'ouverture, à 18h30, eh bien, va y avoir un concert.
Oui. Alors, un concert avec quatre musiciens qui, eux, sont imbibés de cinéma et vont nous renvoyer à des choses de cinéma.
Un peu, ils vont quand même passer une sauce moderne dessus.
Oui, 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 tout à fait.
Il va y avoir des musiques de films
oui,
assez folles.
Tout à fait.
Donc voilà, donc ça c'est à partir de 18h30,
oui, hein,
le samedi 11 novembre,
c'est ça,
commencent les festivités,
oui,
du festival et à 21h, le film d'ouverture, Double Foyer. Ça, il faut prendre connaissance. Alors, il y a une autre date aussi importante, c'est le vendredi 23 octobre, si je ne me trompe pas.
Le 20 octobre. C'est vendredi prochain.
Alors, le 20 octobre. Vendredi 20 octobre.
Alors, ce sera donc à 20h30, d'abord aux demi-heures de courts-métrages, qui sont des courts-métrages de jeunes réalisatrices dont les films ont intégré la sélection, hein, et à 21h, donc présentation des jurys, présentation des différents films du festival, des invités, etc. Donc, information avec des bandes annonces sur écran, etc. De quoi mobiliser, motiver tout un public qui est invité à venir et à s'inscrire à venir. Sur le site, il n'y a pas de problème.
Oui, puis après, il y a une petite discussion,
oui,
autour d'un petit apéro dînatoire,
voilà,
comme on dit ça.
Voilà.
Et donc, tout le monde parle des films et là, c'est l'ambiance. Tout le monde se dit, alors, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu as choisi?
Ou bien on dit, ah ben il y a trop de films, moi je ne peux pas les voir tous. Et puis, il y a deux films en parallèle et je ne peux pas voir tous les films en même temps. Et oui.
Ça, c'est le bas qui blesse. C'est vrai que des fois, tu es là, tu vois deux films et tu es là, tu fais, alors, quel est mon choix? Pourquoi? Des fois, tu choisis même en tirant à pile ou face. Hein,
oui,
parce que
voilà,
tu n'as pas ce choix-là. Ou alors, tu vas voir un des membres de l'organisation et tu dis, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez plus comme film qu'il ne faut absolument pas que je rate?
Tout à fait.
Sauf que des fois, ils te disent, les deux. Alors, une sacrée programmation,
oui,
sur les films en compétition.
Oui.
Il y en a combien cette année? Parce qu'il y en a quelques-uns. Hein,
il y en a presque une vingtaine de films en compétition. Voilà, pour nos deux jurys, qui sont le jury jeune et le jury adulte. Voilà, et c'est des films dont on a pensé qu'ils étaient essentiels, importants à être vus par les jurés, à découvrir.
Oui, puis les jurés, on le rappelle, non professionnels.
Oui.
Un jury jeune,
oui,
et un jury adulte.
Et nous sommes toujours épatés par l'intelligence de leur palmarès. Ils sont souvent étonnants, pertinents, intelligents. Et les deux jurys se concertent et établissent un palmarès absolument étonnant.
Mais moi, je suis toujours parvenue que le jury jeune, l'année dernière, leur meilleur film, c'était La femme de Tchaïkovski.
Oui, et c'est un film extraordinaire.
Ça, c'est incroyable.
Et c'est pas un film que j'aurais pas pensé qu'ils auraient pu les accrocher ou les intéresser. Ouais.
Non, on était tous avec 16 ans,
ouais,
des,
ouais,
des petits films un peu plus frais, un peu
tout
plus
à fait,
doux. Et non, ils nous ont choisi un truc béton. Et franchement,
ouais,
on les remercie, mais vraiment, parce qu'on a eu cette opportunité après,
ouais,
de le voir le soir.
Voilà. Et puis on a eu un accompagnement musical.
Ah,
il se trouve,
oui,
qu'on a Marie-Claude Verschowska, qui est une pianiste formidable et très talentueuse, qui nous a interprété du Tchaïkovski. Enfin, on a refait une soirée. Ça a été absolument formidable.
Alors, ils sont combien, le petit jury jeune, cette année?
Ah, ben cette année, ils seront 8. Et les adultes seront 8 aussi.
Ah!
Oui. Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je n'ai pas trop eu le temps de voir, mais je sais qu'il n'y a pas tout à fait la parité garçon-fille. Il y a toujours plus de filles que de garçons. Mais enfin, au niveau établissement scolaire, un peu tous les établissements, un par établissement et du supérieur. Enfin, il y a un mix qui a été intelligemment réalisé.
Oui, donc on va encore avoir un level.
Oui.
Ils vont encore discuter avec nous. Ça va être des
ouais,
bons moments. Et puis, ils ont aussi cette opportunité de discuter avec les invités qui sont,
oui,
présents.
Oui, et il y aura quand même de beaux invités. Bon, on va commencer par Claire Vassé, donc
bien sûr,
sera là le premier soir.
Mais on peut parler de l'invité d'honneur quand même, Julie Bertuccelli.
Alors ça, c'est on est ravis qu'elle ait accepté de venir passer deux jours à Muret. et de nous consacrer tout ce temps, parce que bon, elle va rencontrer des scolaires, mais pas que. Elle va nous proposer ces trois fictions, mm-hmm. qui sont, enfin moi personnellement, je suis très attachée à ces films. L'arbre qui était à Cannes, il y a Depuis Cotard est parti, qui va être numérisé, qui va faire l'objet d'une ressortie dans quelques mois, et qui était un film que j'avais découvert, moi, sur le déni, qui était absolument extraordinaire. Et puis La dernière folie de Claire Darling, que nous avions proposé déjà au festival. Et puis, elle va nous accompagner avec un film de son papa, qui est Rempart d'argile, qu'elle va présenter, et un documentaire qui est Les dernières nouvelles du cosmos, qui est un documentaire formidable sur une jeune femme autiste. Mais Julie Bertuccelli, c'est quelqu'un de généreux qui s'intéresse à la différence, qui s'intéresse aux gens qui viennent d'étrangers, qui viennent découvrir la France. Je pense à la cour de Babel qui va être présentée à des scolaires, et qui s'intéresse à la différence, aux gens qui sont cette jeune femme autiste qui écrit des poèmes. C'est absolument extraordinaire à découvrir.
Ah, c'est vrai que ça va être une très belle rencontre.
Oui.
Et en plus, je sais sa générosité.
Oui.
Et sa gentillesse. Et je sais qu'elle est aussi très passionnée.
Oui.
Et je pense qu'il va y avoir des très, très beaux débats à la fin des films avec le public. Parce que moi, je sais que le public à Muret a toujours des questions hyper pertinentes.
Oui.
Et à chaque fois, moi, je suis bluffée par ce qu'ils disent. J'ai dit, mais j'ai pas noté, moi, cette question-là.
Et puis, pour nous, Julie est engagée dans le collectif 50-50. Et je crois que c'est important de soutenir et d'accompagner et de montrer cette lutte, finalement, dans le milieu du cinéma, pour que tous les métiers du cinéma, techniciens et autres, et réalisateurs, qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes. C'est pas encore gagné, mais c'est sur le chemin.
Non, c'est vrai. Mais on cravache. On va y arriver. On va y arriver un jour ou l'autre. On va y arriver. On y croit. On y croit, en tout cas.
Tout à fait.
Alors, le dimanche 12 novembre, on commence les festivités à 11h.
Oui.
Avec, ça commence déjà. Deux choix. Los Delincuentes, qui est en film en compétition.
Oui.
Et La fête continue. Donc, voilà.
Le dernier Guili Guillan.
Quand même.
Il est attendu. Hein. Il est... C'est Guili Guillan, point. Ça ressemble à Guili Guillan. C'est l'histoire d'une femme engagée en politique, qui va rencontrer aussi l'amour. Enfin, c'est toujours très complexe, avec des familles, des problèmes familiaux, tout est mélangé. La politique, la vie de famille familiale, tout ça interfère.
Et puis, on disait, c'est international, puisqu'on va partir à 15h30. Alors, il y aura La dernière folie de Claire Darling.
Oui.
Et puis... Un hiver à Yanji.
Alors, cet hiver à Yanji. Cet hiver à Yanji, moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est pas un grand film au sens qu'il n'aura pas une sortie formidable, mais c'est un coup de cœur. C'est trois jeunes qui sont au fin fond de la Chine, dans un endroit perdu, où il y a, dans la neige. Et ils sont, pour des raisons tous les trois très différentes, là. Ils ont atterri là, tous les trois, pour des raisons très différentes. Ils vont se rencontrer. Il va y avoir des histoires d'amour un petit peu en trio, là. Mais surtout, on va les voir vivre des choses ensemble, et avec une mélancolie, au fond, sous-jacente, et avec une tristesse, et avec... quelque part une peur de la vie, faut-il continuer à vivre, enfin avec des vrais questionnements. J'ai trouvé ce film magnifique. Il y a une scène avec un ours, rien que pour la scène avec l'ours, il faut voir le film.
Ok, donc je sais déjà ce que je regarde le dimanche à 15h30. C'est bon, c'est noté. Coup de cœur de Jo, allez voir Un hiver à Yanji.
Oui,
on est déjà parti. Après, on continue à 18h. Rempart d'argile, on en parlait.
Voilà.
Et puis, Les lueurs d'Aden, alors, un film en compétition aussi.
Voilà, alors c'est un film qui n'est pas tout à fait un documentaire, mais qui pourrait être un
documentaire.
Fiction, magnifiquement filmé. Et on est à Aden, et on est au Yémen, et on est sur des problématiques propres au Yémen d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Yémen en guerre, etc., où lui, il travaille pour la télé, mais il n'est plus payé, donc il ne travaille plus, et ils sont sans argent. Ils vont chercher, avec leurs trois enfants, à trouver un appartement moins cher pour survivre. Tout est compliqué, l'eau, l'accès à l'eau, l'électricité, etc. Et là-dessus, va arriver un quatrième enfant. Et ce quatrième enfant, c'est pas possible de l'accueillir. On n'en a pas les moyens. Et ça va être le parcours du combattant pour essayer d'avorter, puisque le droit à l'avortement n'existe pas. Que le Coran, là-dessus, semble-t-il, est Ouais, et perplexe.
Divergent, ouais,
oui, tout à fait. Divergent. Et donc, on va suivre ce couple qui va essayer d'avancer à travers la corruption, dans le milieu médical et autres. C'est absolument... c'est comme un thriller, quoi. On les suit dans ce cheminement et leur avancée, c'est un très beau film.
Ben, je souhaite bon courage au jury, parce que si t'as déjà tous ces films... Alors, on part sur 21h avec « Depuis Cutor est parti hein, », avec Julie Berticcioli. Et puis, un film que j'attends avec impatience, moi, c'est « Levante », à 21h, le film en compétition.
Alors, bon, voilà, c'est le deuxième film qui nous parle d'avortement, mais tout à fait différent. C'est un film pop, c'est un film enlevé, c'est un film brésilien. C'est un film avec des jeunes femmes qui font du volley, une équipe de volley gay. Oui. Donc une équipe, et cette jeune femme lors d'une fête, l'héroïne de notre histoire, donc lors d'une fête elle accouche avec un garçon et puis elle est enceinte et elle veut bien sûr, sa famille est d'accord, sa copine avec qui elle vit est tout à fait d'accord, avorter ça pose pas de problème, sauf que dans le Brésil d'aujourd'hui l'église évangélique est très très puissante et elle va avoir faire l'erreur d'aller trouver quelqu'un de cette croyant que c'est quelqu'un qui va l'aider à avorter, et quelqu'un de cette église, et l'église va la poursuivre partout dans son travail, ça va être un vrai cauchemar pour elle qui va se déclencher, et elle va avoir beaucoup de mal à avancer dans son projet. C'est un film pop, un film très enlevé, très drôle, très violent en même temps. Enfin, moi j'ai trouvé ça, ce film, très attachant.
Bon, bah voilà, encore un film à noter. J'ai plus de place là. Attends, il y a un petit carnet. Alors, moi, je tiens à vous dire que là, dans les mains, j'ai le programme du Festival international du film de Muret en avant-première. Attention, on me l'a apporté. Et il y a un petit truc où il y a marqué mes notes. Le problème, c'est qu'on n'en a jamais assez de ce petit truc, mes notes. À chaque fois, moi, je vois les gens avec leur petit stylo en train de noter et tout. Et puis, en fait, ils me disent, mais j'ai pas assez de place. Donc, ils ont tous un petit carnet. C'est tout mignon. Je trouve ça incroyable. Mais ils commencent quand même sur le... Ça leur donne envie. Hein. Ouais. Ça, ils marquent. Et ils font leur petite sélection aussi. Et à la fin, quand il y a les prix, ils sont là, ils font... Alors non, moi je pensais plus que c'était ce film-là. Et ils vont débattre avec les jurys. Et les jurys leur expliquent pourquoi c'est pas ce film-là qui a gagné. Moi, je trouve ça excellent. Pour revenir avec ce petit programme où il y a tout dedans.
Oui.
On a tous les films. On a aussi un petit mot sur les réalisateurs. C'est hyper important. On a aussi le côté, alors on a le côté film-fiction, mais aussi les documentaires qui sont mis en avant.
Tout à fait.
Il y en a 6, 8.
Oui, il y en a pratiquement un par jour.
Enfin, c'est ça.
Voilà. Et on a de belles choses à découvrir.
Qui sont distillées un peu partout.
Voilà, tous les soirs à 18h en général, c'est le créneau du documentaire.
C'est ça. Ils sont en bleu hein, sur la fiche horaire. Moi, je le vois. Ils sont... Attention, ça rigole pas. Mais je sais pas, ça te fait rire. Moi, je trouve ça excellent. Ouais. On a vraiment, on est guidé et tout. Il y a pas de souci. Hein.
Mais justement, on pourra récupérer le catalogue et récupérer la fiche horaire le 20 au soir à 20h30. On va distribuer tout ça gratuitement à tous les gens qui seront intéressés, qui viendront.
C'est ça. Il faut venir parce que vous avez votre petit programme avec votre fiche horaire et puis après vous faites votre choix. Et comme en plus, ils vont passer les bandes annonces, les trucs et tout, et vous allez faire une croix. Et à un moment donné, vous allez refaire une autre croix et vous allez dire, bah non, c'est le même moment. Donc c'est vrai, c'est compliqué, hein, mais oui. on aime ce côté-là parce qu'on a un choix vraiment très intéressant, très fort. Mmh. On parlait d'un documentaire, je veux parler de La Rivière.
Ah oui, alors La Rivière, on espérait que Dominique Marché serait là, mais c'est la campagne promotionnelle de son film, donc il ne peut pas. Par contre, nous aurons... un des protagonistes du film qui viendra parler de cette histoire, puisque c'est pas très loin de chez nous, c'est l'histoire du gaffe de peau. Mmh. Et toutes les problématiques autour du gave de Pau, et Dieu sait que Dominique Marchais les cerne toutes, à savoir les saumons, la remontée des saumons. On va jusqu'à l'estuaire de la Garonne, hein, sur les saumons, comment les protéger. On est aussi sur l'idée de la fonte des neiges, du réchauffement climatique. S'il n'y a plus de glaciers, il n'y aura plus de gave, etc. Enfin, toutes ces questions sont soulevées par des spécialistes qui accompagnent. Et on voit aussi des pêcheurs à la mouche. Les pêcheurs à la mouche vont trouver leur plaisir parce que jamais la rivière n'avait été aussi bien filmé.
Alors ça, c'est à 18h, hein, tous les jours, on a un petit documentaire. Ouais. Et je voudrais parler d'un film à 21h, le lundi 13, oui. C'est La Vénus d'Argent.
Alors La Vénus d'Argent, c'est assez étonnant parce que Elena Claude, c'est ses premiers films de cinéma. Mmh. Là, hein, et elle s'intéresse à un sujet qui nous paraît très étonnant. D'abord, sa comédienne principale l'a choisi Claire Pommet, c'est-à-dire Pomme, la chanteuse Pomme, qui réussit magnifiquement. Et cette jeune femme donc est l'aînée d'une fratrie qui vit dans une gendarmerie avec un papa gendarme qui est un peu... Pas trop bien dans sa tête, quoi. Et elle rêve qu'une chose, c'est réussir dans le monde de la finance. Et le monde de la finance, c'est un monde impitoyable, où on vous promet des choses et le lendemain, ça marche pas. Où il y a beaucoup de corruption et beaucoup de tromperies, etc. Le bureau était là aujourd'hui et demain, il n'est plus là. Enfin, un tas de choses très compliquées. Et cette jeune femme, avec une opiniâtreté extraordinaire, va essayer de se faire une place au soleil. C'est extraordinaire. Et je trouve que Pomme est étonnante dans ce rôle, quoi.
Je note. j'ai mon calepin plein, là. Le mardi 14 novembre, oui. Donc il y a des films hein, qu'on a déjà vus, comme Le Vente, qui revient. Oui. Mais je veux parler de How to Have Sex, un film Royaume-Uni.
Alors voilà, How to Have Sex, c'est un film qui a été remarqué à Cannes, qui a une bande-annonce, une bande-son très 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 forte, très musicale, très pop, puisqu'il s'agit de trois copines qui vont passer dans leur bac bientôt, qui vont être sélectionnées dans leur lycée et qui partent sur une région paradisiaque au bord de la Méditerranée pour s'éclater, faire la fête, s'amuser. Et elles vont rencontrer des garçons qui sont dans la même problématique. Tout paraît tout simple, on va s'amuser, on fait la fête, c'est pas toujours extrêmement, c'est quelquefois des blagues un peu grasses, un peu, etc. Et ces trois gamines, finalement, vont mesurer ben justement ce que c'est que le consentement. Qu'est-ce que c'est que, finalement, ça nous engage beaucoup plus qu'on ne pensait. La première fois, c'est pas un truc qui peut se bâcler comme ça sur un coin de plage un jour de fête. Peut-être que c'est plus grave que ça, que c'est plus important que ça. Et le film chemine doucement de la folie du on s'amuse, on joue, on danse, on boit, on s'éclate, etc. à finalement une espèce de prise de conscience, de gravité qui apparaît peu à peu. Moi, j'ai trouvé ce film extraordinairement attachant et puis alors fabuleusement filmé. Filmer ces scènes de fête au bord des piscines avec des garçons et des filles, avec des jeux à la limite du grivois et du vraiment un peu vulgaire. Enfin, on est toujours dans la vulgarité. Les animateurs, ce qu'ils proposent, c'est des jeux extrêmement vulgaires. Et comment ces personnages vont finalement prendre conscience de leur de ce qu'ils sont, de leur intimité, aussi bien garçons que filles. Hein. Et c'est, je trouve ce film d'une gravité sur l'adolescence extraordinaire.
Et puis, il y a un film à 21h, Il pleut dans la maison.
Oui.
Et ce sera en présence de la réalisatrice, oui. Paloma Sermonday.
Oui, donc c'est le premier long métrage. Et Il pleut dans la maison nous raconte, finalement, c'est un film belge, nous raconte l'histoire de deux jeunes adolescents qui sont une maman qui les laisse un peu aller et qui dire si peu dans la maison, c'est bien que parce que personne ne répare cette fichue fuite d'eau, hein, et ils sont abandonnés, laissés à eux-mêmes. Alors la jeune fille croit que, et c'est une fratrie qui a joué là-dedans en plus,
oui.
Elle croit que elle va quand même y arriver, qu'elle va arriver à décrocher une formation, à faire des études, etc. Lui, il vit de petits larcins, de petits trucs, il est au bord de la délinquance, et puis voilà, et c'est compliqué, c'est difficile, et c'est des perdants de la vie, quoi.
Oui, tout à fait.
Mais avec une force entre les deux qui les tient quand même debout.
Ah, ça c'est bien.
Oui, oui.
Il y a toujours un quelque chose de fusionnel,
voilà,
en fait.
Voilà, voilà. Mmh.
On passe au mercredi 15 déjà. Oui. T'as vu ça un peu?
Oui.
On déroule, hein, mais petit à petit, je ne veux pas faire tous les films parce que sinon, on n'a pas. Il ne nous faut pas une heure, il nous faut trois heures.
Voilà, tout à fait.
Je vais parler d'un moment parce qu'il y a aussi le jeune public.
Oui.
Et il y a l'incroyable Noël de Shaun le Mouton pour le jeune public à partir de 3 ans avec un petit ciné-goûté à 15 heures.
Voilà. Et un accompagnement par la médiathèque de Muret qui va amener un livre, une histoire qui va être lu après le. Alors, Shaun le Mouton, on ne le présente plus.
Bah non.
Il y a toujours l'équipe. Il y a le berger, il y a le fermier, il y a le chien, le fermier qui a toujours des idées. Étonnante. Et puis il y a Shaun le Mouton qui mène la danse avec un petit mouton qui a réussi à s'égarer, à faire des bêtises. Et toute l'équipe, Shaun le Mouton va entraîner tous ses moutons. Il y a toutes sortes de moutons, des petits, des grands, des maigres, des gros. Il y a toujours le très gros mouton qui peut jamais passer petites ouvertures.
Par les trappes.
Et ils vont essayer de récupérer ce petit mouton. Et à la fin, tout va rentrer dans l'ordre pour fêter Noël comme il faut.
Eh bien voilà, pour les enfants, hein, c'est tout bon pour y aller en famille, aller voir l'incroyable Noël de Shaun le Mouton à 15h le mercredi 15 novembre. 15-15, t'as vu, ça va bien. Après, à 18h, on a un truc un peu plus sérieux, un peu plus dans le truc sociétal, c'est le bâtiment 5 de Ladjli.
Alors
qui avait fait Les Misérables.
Voilà,
rappelons-le.
Et nous avions présenté Les Misérables dans un festival précédent. Et là, bâtiment 5, on a tout le savoir-faire de Ladjli. Comment un maire d'une commune qui a pas mal de grands ensembles, etc., et des populations en difficulté, comment il va mettre le feu aux poudres sans le vouloir, sans le savoir, et comment les choses vont se construire et jusqu'à une espèce de catastrophe liée autour de ce bâtiment 5 qui est habité par des familles et qu'on va mettre dehors brutalement de façon et sans aucun suivi, bien entendu.
Alors je vois que les films qui sortent après à 21h. Oui. Il y a des projections sur la Barthe-sur-Lèze.
Oui. Alors, le cinéma de la Barthe-sur-Lèze ouvre juste la semaine du festival. Et donc, nous proposons, comme c'est Véo Muret qui va aussi assurer la programmation de la Barthe, nous proposons deux séances comme ça dans le cours de notre programmation qui vont avoir lieu à la Barthe. Et qui auront lieu. Mais le même film sera aussi à Muret.
Oui, c'est ça. Oui, parce que Bonnard, Pierre et Marthe, qui est à la Barthe le 15 novembre, est aussi à Muret le 19 novembre. Alors, on parle aussi de Soudain Seul, en présence du réalisateur Thomas Bideken, normalement, sous réserve.
Oui, normalement, on croise les doigts. Il a envie de venir. On espère qu'il viendra, qu'il pourra venir. Et Soudain Seul, c'est un film qui nous a beaucoup étonnés. C'est l'adaptation d'un roman d'Isabelle Autissier, qui s'appelle Soudain Seul. Et raconte l'histoire d'un couple qui part faire le tour du monde ensemble, tous les deux, sur leur voilier, etc. Et puis, ils sont dans l'Antarctique. Et là, ils vont s'arrêter, explorer une petite île qui paraît quand même peu accueillante, quand même. Et hasard de la vie, le voilier va partir, va disparaître, et ils vont se retrouver seuls sur cette île. Alors, au-delà de régler quelques comptes de couple, il va falloir surtout prévoir la survie, s'organiser pour la survie et voir comment on peut essayer de s'en sortir parce qu'on ne sait pas du tout si quelqu'un viendra un jour vous retrouver et vous aider. Donc, c'est formidable comment ça va fonctionner, comment dans le couple, chacun va prendre des initiatives pour arriver à essayer de sauver, de survivre, hein. C'est assez formidable et c'est assez. Ça montre aussi, quand même, je trouve, quelque part, que le couple, c'est aussi, même si on se dispute par moments, même, c'est quelque part une solidarité. C'est quelque part quelque chose qui aide à survivre donc, et qui peut fonctionner.
Bah oui, on tient à l'autre et on se repose sur lui souvent et ça nous permet d'avancer.
Alors, les décors sont magnifiques, le cadre est magnifique, on met dans la neige, au milieu des manchots, enfin, c'est très très beau. Et puis, c'est un film d'aventure haletant.
Bon, ben voilà, encore un film à noter. C'est malin, moi, ma liste, elle se remplit. Je vais devoir choisir, je vais devoir venir te voir et te dire Jo, lequel je prends. Quoique nous, peut-être qu'on aura des projections presse pour rencontrer quand il y aura justement des réalisateurs qui viendront, ce qui nous permettra de voir les autres films.
Voilà, tout à fait.
Mais bon. Mais je t'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que des fois, le choix est cornélien. Et il y a un autre choix qui va se passer, je pense, le lendemain, le soir à 21h, avec Madame de Sévigné et les carnets de Siegfried.
Alors, Madame de Sévigné, bon, c'est un très beau film que je crois que tu as vu.
Ah, oui, magnifique.
Très beau film sur les rapports mère-fille. Et moi, dans mon esprit d'élève, pour moi, Madame de Sévigné, comme elle aurait écrit un roman, elle a écrit des lettres à sa fille. Et en fait, les lettres à sa fille, c'est bien une relation fusionnelle entre les deux qu'elle cherche à garder et à continuer à établir. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit finalement le duo mère-fille, comment le duo est fusionnel, se sépare, revient ensemble, etc. C'est très, très beau, un très, très beau film.
La fille, à un moment, a besoin de son indépendance et le fait bien comprendre.
Voilà.
Mais je ne dirais que ça.
Voilà. Et les lettres, c'est le lien avec la mère. Aujourd'hui, elle lui téléphonerait.
Oui.
Aujourd'hui, elle lui enverrait des SMS. Mais là, c'est le seul moyen qu'elle avait de communiquer avec elle et de garder ce lien. Et ça, quand j'étais élève, je n'avais pas compris tout ça.
Bah, c'est vrai que moi non plus. Hein. C'est en voyant Madame de Sévigné que ça ouvre des opportunités. Donc ça, c'est le jeudi 16 novembre.
Oui.
Hein. À 21h, et juste avant, j'ai oublié La fille de son père. Bah oui, je peux oublier ce film?
Ah oui, parce que connu Erwan Leduc avec Perdrix. Et puis là, c'est un film pareil qui va à toute vitesse, qui part comme une comédie avec une espèce de gravité qui va s'installer. Comédie, il est jeune, il a 20 ans, il rencontre une jeune femme, il tombe amoureux, ils font un enfant, elle s'en va. Ils se retrouvent seuls avec cet enfant et on va les retrouver très vite avec une adolescente un peu contestataire et qui va vouloir prendre sa liberté. Et ils sont très fusionnels et ça va être très compliqué tout ça. Et c'est remarquablement réalisé par Erwan Leduc qui a un sens de l'ellipse dans le cinéma extraordinaire. Hein. Ça, je le trouve épatant. Comment on peut traverser des années, comment on peut traverser des 2000 kilomètres à toute vitesse. Et ça, c'est assez formidable. Et le film avance magnifiquement bien dans cette, finalement, comment ils vont arriver à devenir adultes tous les deux.
Mmh. Alors, avant de continuer la programmation qui est très riche, hein, on vous l'a dit, on va faire une petite pause musicale. Alors, on va commencer par... c'est vrai qu'il y a un film qui est passé cet été, qui a fait grand bruit. Tout le monde l'attendait avec impatience et tout le monde a vu ce côté psychédélique de Barbie. Mais il y a des messages très profonds à l'intérieur. Et même la chanson distille un peu ce message.
Me. Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party burning. I wonder out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Won't see it on my face. Watch me dance, dance.
Bon, ça swing sur le dans le studio. Moi, je dansais et tout. C'est vrai que cette chanson, voilà. Jo, tu m'as dit, tu n'as pas pu aller voir le film parce que bah, y avait cette programmation à faire.
J'ai pris du retard sur tout ce qui sort en ce moment.
Du coup, t'en fais pas, hein. Il est toujours en salle, donc oui. Tu pourras le voir. Puis même, je suppose que le VOE de Muret sera enchanté de te le passer. Alors, on va revenir à la programmation. On était au vendredi 17 novembre.
Oui.
Et il y a des films, il y a Eman,
oui.
Qui est assez fort aussi, hein, oui. Un film japonais, un thriller.
Oui, qui nous a beaucoup étonnés. C'est une jeune femme qui vit avec un homme qui, en fait, a pris une autre identité. Et c'est sur le changement d'identité, les raisons de ce changement et le pourquoi. Et c'est en fait un thriller. On avance dans une histoire complexe. Et c'est, moi j'ai trouvé ça, ce film, c'est une très belle construction, très réussie, très enlevée.
Ils ont toujours cette façon de faire qui est assez incroyable, oui. Les Japonais.
Oui.
C'est fou.
Oui.
Et là, ce sera à 15h. Et après, je voudrais parler d'un documentaire. Je vais changer un peu. C'est vrai que je pourrais parler du film Le Testament, mais je voudrais parler de Édouard Louis ou La Transformation.
Voilà. Et nous aurons certainement le réalisateur qui accompagnera le film. Alors, il a finalement donné la parole à Édouard Louis, qui reparle de ses années lycée. Et je trouve que c'est toujours passionnant tout ce qu'il dit. Et il a certainement eu beaucoup d'heures de discussion, d'échanges. Il a gardé le plus fort et le meilleur. Et ça nous éclaire énormément, je trouve, sur l'œuvre d'Édouard Louis, qui est un transfuge social. Hein, et ça nous éclaire bien à travers ce qu'il raconte. Et il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué, moi, dans ce documentaire. C'est, premièrement, il estime qu'il ne savait pas manger. Il ne mangeait pas...
comme il fallait.
Comme il fallait. Mm. Et quand il arrive dans ce lycée, qui est finalement plus bourgeois, etc., il se rend compte qu'il ne mange pas propre. Enfin, sa façon de manger est populaire et c'est pas ce qu'il faut. Et la deuxième chose, c'est qu'il raconte une anecdote, c'est qu'avant de partir au lycée, il avait demandé à sa maman de lui acheter un manteau particulier qui était très à la mode actuellement à l'époque, etc. Et il arrive avec ce manteau. Avec ce manteau, il fait au lycée complètement décalé parce qu'il est pas, ça fait prolétaire, ça fait pauvre, ça fait un manteau de peuple.
Ouais.
Et du coup, il va s'en débarrasser. Enfin, il raconte des choses très fortes, très qui nous touchent très fort. Et je trouve que c'est chouette de lui avoir donné la parole. Je sais pas dans quelles conditions ils ont pu réaliser ce documentaire, mais c'est passionnant de A à Z.
Bon, bah voilà, bah encore quelque chose qu'il faudra aller voir. Et puis, ouais, je disais, hein, y a le film Le Testament.
Ah oui, c'est Denis Arcand qui revient.
Quand même.
Denis Arcand, c'est toujours Denis Arcand. C'est-à-dire que ça part comme une comédie, c'est une comédie, et puis ça, c'est ironique, c'est coquin, c'est méchant, c'est quelquefois... Mais pas, enfin, il n'est pas méchant envers ses personnages, mais quelquefois, ça nous renvoie des choses, et ça nous renvoie des problématiques bien de notre époque, à savoir, nous sommes dans une maison de... Pardon, pas maison de retraite, c'est la maison des aînés, excusez-moi, nous sommes au Canada.
C'est la maison des aînés, attention, au Québec, hein, c'est comme ça.
Voilà, alors la maison des aînés au Québec, donc il y a une fresque qui a depuis le siècle dernier, enfin depuis des décennies, et qui montre des Indiens avec des plumes accueillant chaque quartier. Et bien sûr, il va y avoir une levée de boucliers contre ces Indiens présentés de façon défavorable, finalement, et cette fresque. Et il va y avoir tout un cheminement, et cette pauvre directrice de maison de retraite va être confrontée à la fois à des manifestations devant ses fenêtres contre ce tableau, à savoir quelle décision prendre, enfin, tout le long, et tout ce cheminement est donc accompagné par un personnage qui vit là, qui est un ancien universitaire, et qui a un regard sur la vie, sur le monde autour de lui, et sur ses voisins aussi, enfin, il y a des choses extraordinaires. Je pense à un gag qui me revient en tête, où on a pour des personnes très âgées dans cette résidence, on a installé les ordinateurs avec des jeux vidéo, en pensant que... Et il y a une dame qui est avec un monsieur, elle est en train de jouer, et puis elle prend la souris, elle la retourne, et elle dit « Non, mais le téléphone, il marche pas. Hein. »
Excellent.
Voilà, bon, ça, c'est
Denis Arcand. On passe un bon moment. Oui, à chaque fois, il nous réjouit.
Ah oui, avec des choses très profondes, très fortes.
Brut de pomme, hein, mais ça fait du bien.
Ouais.
Et puis, on va partir après à 21h avec Première Affaire. Et
oui,
peut-être qu'il y aura Noé Habitat,
qu'il a...
une grande actrice hein, qui a fait un sacré bond depuis Slalom.
Et il y a eu Slalom, et avant, il y avait eu Ava.
Ava aussi. Ouais.
Et c'est une comédie. Et ce sera sans doute elle qui viendra accompagner le film. Et Première Affaire, enfin, c'est un film qui nous a absolument passionnés parce qu'on voit cette jeune femme qu'elle incarne, donc, qui va travailler chez un avocat. Et on lui téléphone, elle est en train de faire la fête. On lui téléphone, tu sais, il y a une affaire, un gars qui est soupçonné d'enlèvement, meurtre, etc. C'est une affaire, bon, écoute, tu t'en occupes, tu y vas. Et elle prend le train, elle débarque dans cette affaire, elle débarque face à un mec, elle n'a jamais eu à plaider quoi que ce soit, et elle va être entraînée dans une spirale complexe par rapport à ce garçon, par rapport aussi au policier auquel elle est confrontée. Donc ça va être une espèce de parcours initiatique pour elle, pour le monde du travail et aussi la vie amoureuse. Enfin, les deux choses vont interférer et ça sera compliqué, quoi. Compliqué, comme des premières fois.
Ah oui.
Mais c'est un personnage extrêmement attachant. Et voilà, suivre tout le long du film dans toute cette histoire.
Bon, ça promet encore un bon moment, belle soirée. Hein, le problème, c'est qu'il y a d'autres films, hein, comme L'Innocence, par exemple, japonais.
Ah oui, c'est Monster. Enfin, il s'appelait Monster à l'époque
Monster,
de Cannes.
Monster,
c'est le dernier Kore-eda. C'est le dernier Kore-eda. Et Kore-eda, c'est toujours Kore-eda. C'est formidable, c'est magnifique. C'est toujours des choses qu'on décrypte petit à petit. C'est une histoire qui avance. Et petit à petit, on met des petits cailloux au bord du chemin et on arrive au bout à comprendre tout. Mais je pense c'était pareil pour cette famille qu'on pensait être une vraie famille, qui n'en était absolument pas une, et qu'on découvrait petit à petit comme étant faite d'éléments rapportés qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Mais là, c'est pareil, c'est deux gamins, et on partira de la conviction de la maman que son gamin à elle, il est maltraité à l'école et l'enseignant le traite mal, et l'enseignant n'est pas à la hauteur et qui va donc revendiquer par rapport à l'école, etc. Il se passe des choses étranges et elle ne comprend rien. Et on part de là.
Et puis à l'école, il se passe pas mal de choses.
Oui, ouais. Et puis on va avoir l'éclairage de l'enseignant et puis après l'éclairage des deux enfants. Peut-être qu'on va arriver à cheminer vers une vérité.
Alors, on arrive au samedi 18.
Oui.
T'as vu, il reste que deux jours. Attention. Là, on sera là déjà. Alors, je vais parler de Chronique en Téhéran, qui est un film en compétition.
Oui, alors.
À 11h.
Oui. Ça nous a beaucoup intéressés et il sera accompagné par une jeune femme iranienne réfugiée en France qui vit à Toulouse et qui va nous parler de Femme, Vie, Liberté aujourd'hui. Mais le film, enfin, ça va bien continuer ce que dit le film. Le propos du film, c'est de montrer que dans un système autoritaire comme l'Iran, dans un régime islamique, enfin, ou la religion, une théocratie, hein, dans ce régime-là, la bureaucratie est à la hauteur de l'autorité. Et donc, on va avoir des gens confrontés à la bureaucratie pour un tas de raisons très, très différentes. Et on verra jamais le bureaucrate, on n'entendra que sa voix.
Ah oui.
Que ses réponses. Et le premier, c'est un monsieur qui vient déclarer une naissance et il va appeler son fils David. Et ça ne va pas du tout, ça n'est pas possible. Et on va avoir le dialogue avec le bureaucrate qui veut pas inscrire David sur l'acte de naissance, absolument, qui fait d'autres propositions, qui lui dit de réviser, de réfléchir. Mais il dit, mais non, c'est ma femme, c'est le prénom qu'elle a choisi. Et puis, voilà. Et toutes ces histoires sont aussi absurdes les unes que les autres, aussi kafkaïennes les unes que les autres. C'est extraordinaire. Je pense à une histoire, un moment qui est presque très drôle, où une dame a perdu son petit chien et elle croit l'entendre au commissariat, et on lui dit que non, c'est pas un petit chien, mais depuis quand vous c'est un chien de la police, mais depuis quand vous travaillez avec des chihuahuas, elle leur dit. Voilà, donc c'est par moments drôle, mais c'est extrêmement caustique, et je trouve que c'est très fort, et je trouve qu'en plus, cette jeune femme va nous éclairer sur l'Iran aujourd'hui, et la situation en Iran, qui nous touche au cœur, bien sûr.
Alors, en même temps, il y aura le film aussi, 20 000 espèces d'abeilles.
Oui.
De Estabilize Urisola.
Voilà. Alors, je crois que tu l'as vu aussi, que tu as été enchantée par ce film.
J'étais ravie par ce film, notamment par la prestation incroyable de la petite fille,
oui.
Sophia Otero.
Oui.
Voilà, elle m'a soufflée. D'ailleurs, on avait pu en parler avec la réalisatrice. Et parle-moi un peu du film. Et puis après, on aura un petit mot de la réalisatrice Estabilize Irisela, qui était présente au Festival Ciné España, où le film a gagné deux prix. Le prix du public, si je ne me trompe pas, et le prix du scénario.
Et il le mérite bien, parce que c'est un très beau film qui se passe dans la campagne, donc, puisqu'il y a des ruches aussi, dans une campagne du Pays Basque. Hein. Et cet enfant qui se sent fille, et comment la famille qui est là, qui se retrouve d'un coup par hasard tout ensemble, va comprendre cette situation ou pas la comprendre du tout ou la refuser complètement. Et il va y avoir quand même un très beau personnage qui va accompagner cet enfant dans sa compréhension de son devenir, quoi.
Sa grande-tante.
Oui, mais c'est quelque chose de très compliqué.
Ah, sa grande-tante et puis la petite-fille aussi.
Abeilles. Oui, tout à fait.
mais
voilà, il y a la grand-mère, il y a tout un ensemble de gens qui gravitent autour, y compris une maman qui n'y comprend rien, qui est complètement débordée par cette situation, et tout ça vit ensemble, se retrouve ensemble pour des circonstances particulières, se retrouve là. Et je trouve qu'en plus la campagne est super bien filmée, les abeilles, la campagne, la nature, voilà.
Alors Estabilize, elle est espagnole, mais elle a tenu à parler en français à des moments. Quand je lui posais des questions, elle a pris cette possibilité, et c'est vrai que j'ai été très touchée par ça et ce qu'elle nous raconte par rapport à cette acceptation de l'enfant.
C'est la société qui font, c'est la société qui la que hace que estas personas terminen por sentirse mal en sus cuerpos.
En fait, c'est la société qui fait que ces personnes se sentent mal dans leur corps.
No es que ellos se sientan mal en su cuerpo porque sí, de hecho, para mí una escena también muy importante con Nico era esa escena en la que están descubriendo su cuerpo y obteniendo placer a través del cuerpo, ¿no? Frotándose contra la hierba. Y gracias para mí a esa escena también el personaje de Lucía puede integrar su cuerpo como una fuente de placer también.
Oui, c'est une scène importante, en particulier quand elle découvre la scène où elles sont sur l'herbe et où elle découvre cette forme de une forme de plaisir, elle découvre le plaisir.
Et pour Lucía c'est important parce que qu'elle peut entendre son corps aussi comme une pour le plaisir et pour la ses génitaux. Bien sûr. Mais oui, Nico, c'est comme la fenêtre au monde, non, qui le montre qu'il y a plusieurs personnes comme elle et qu'ils sont cool.
C'est très beau, je trouve, la façon dont elle en parle. C'est toujours délicat, les histoires de transsexualité. On pense toujours aux adultes, jamais aux enfants. Sébastien Lifiz avait fait un très beau documentaire sur un petit garçon qui se voyait petite fille, mais avec une adhésion familiale formidable. Mais là, c'est beaucoup plus complexe au niveau de la famille. C'est pas forcément très bien reçu. C'est même renvoyé souvent comme un problème éducatif.
Bah, rejeté, oui, tout à fait. On dit que c'est la faute de la mère.
Voilà. C'est souvent un problème éducatif. C'est-à-dire, comment ça se fait que ce petit garçon ait de telles idées ? Enfin, voilà.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est un très, très beau film.
Oui.
Et là, ça va être dur le choix, hein, entre 20 000 espèces d'abeilles à 11 heures et Chronique de Téhéran, vu comment on a vendu les films. En fait, on n'est pas sympa, en fait. C'est comme ça. C'est comme à 15 heures avec Inch'Allah, un fils.
Oui.
En présence de la réalisatrice et du producteur.
Voilà, alors la réalisatrice ne parle pas français, mais son producteur est aussi son interprète. Donc, Inch'Allah, un fils, nous replonge dans des histoires. Nous sommes en Jordanie. Je pensais que Jordanie est un pays plus avancé, mais non. Son mari va mourir, cette jeune femme donc n'a pas d'enfant. Son mari meurt, et bien sûr, l'héritage revient. Elle a une petite fille, excusez-moi. Elle a une petite fille, donc, et son mari meurt, et l'héritage revient totalement au frère. Y compris, le frère décide que c'est lui qui va récupérer cet enfant et l'éduquer. Et elle va se battre avec les armes qu'elle aura pour essayer de finalement d'exister, de s'émanciper et de combattre dans cet environnement qui est quand même extrêmement difficile. Et ce qui symbolise finalement sa difficulté, c'est que la voiture est là, en bas de son mari, et elle ne sait pas conduire. Elle ne sait pas la conduire. Et à la fin, vous le verrez, elle pourra conduire la voiture.
Ah.
Mais il y aura bien d'autres problèmes.
Il y aura bien d'autres péripéties avant ça.
Oui.
Et je le disais, un choix cornélien, hein, parce qu'à 15h, il y a aussi Un silence de oui. Joachim Lafosse.
Voilà. Alors ça, c'est un très, très grand film sur le thème du secret familial qui, à un moment donné, on a gardé le secret, on a tout étouffé, tout va bien, tout roule, et puis il va y avoir un grain de sable, il va y avoir quelque chose qui se passe, et puis d'un coup, ce silence familial va éclater, et des choses graves vont être révélées, et vont finalement, nous toucher au cœur, quoi. Mais on est comme dans un thriller. On va avancer dans cette histoire et découvrir par petites bribes, finalement, qu'il y a un problème. Mais où est le problème? Quel est le problème? Et puis, la gravité du problème. Au début, on comprend rien à tout ce qui se... Et puis, on va avoir, au bout du compte, on va avoir la compréhension. Et je pense que, pour Joachim Lafosse, c'est un film très personnel, puisqu'il a dit lui-même que c'était quelque chose qui le touchait au cœur directement. Il faut voir Un silence. Et puis les comédiens sont magnifiques. Enfin, Emmanuel De Vos en mère qui a essayé de tout que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Hein. Voilà. Et puis comment elle joue magnifiquement sans jamais caricaturer son personnage. Elle est extrêmement attachante et puis complexe, quoi.
Mmh. Ouais, encore un beau film. Hein. Ouais. Pareil, à 18h, va se passer un choix cornélien entre Une affaire d'honneur de Vincent Pérez
oui.
et un documentaire. J'aime beaucoup ce réalisateur, Gilles Perret.
Ah oui.
La ferme de Bertrand.
Oui. Il sera là. Alors, la ferme des Bertrands, c'est une ferme en Savoie où on collecte du lait depuis des générations pour fabriquer le reblochon. Et donc, cette ferme, il y a 100 vaches qu'on connaît toutes par leur nom, etc. Mais il se trouve qu'il y a, la ferme a été filmée en 72. Puis, il est à lui-même, Gilles Perret, l'a filmé il y a 10 ans, 20 ans. Et puis, il revient aujourd'hui. Alors, la transmission, les générations, la circulation intergénérationnelle, l'amour du travail, l'amour de ces animaux, l'amour du terroir, du territoire, et les magnifiques paysages dans lesquels tout se déroule. Je trouve que le film est extrêmement passionnant, La ferme des Bertrands, et il nous raconte finalement 50 ans de cheminement du monde rural, de cette ferme, voilà, 50 ans.
La dureté aussi,
oui.
Les choses qui sont cachées.
Oui, hein. Tout à fait.
J'aime beaucoup parce qu'il met vraiment... il l'avait fait d'ailleurs dans un très beau film, Reprise en main.
Oui.
Où il avait montré un côté caché
du monde du travail.
Du monde du travail, de l'usine et tout, de la reprise. Et j'avais trouvé ça excellent. Et c'est vrai qu'il revient à ses premiers amours, le documentaire.
Et c'est très très réussi parce que on connaît pas toutes les vaches par leur nom, mais eux oui. Et puis ils sont attachants, la génération d'avant, la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, comment ils envisagent l'avenir. Enfin, tout ça je trouve que c'est formidable. C'est formidable d'humanité, de solidarité familiale, enfin de plein de choses, quoi.
Alors, à 21h, on va se poser le même dilemme hein, entre Winter Break
oui.
et HLM Pussy, où il y aura la réalisatrice.
Oui. Alors, Winter Break, c'est le dernier film d'Alexander Payne, dont on attend beaucoup de choses, parce que c'est toujours très, très réussi. Hein. Alexander Payne, ça nous raconte des histoires de gens qui avaient peut-être rien à voir les uns avec les autres, qui se retrouvent ensemble pour une soirée de Noël. Enfin, je laisse découvrir le film d'Alexander Payne. Mais HLM Pussy, c'est un premier film de Nora L. Hirsch qui sera là. Et ça raconte l'histoire d'amitié. Trois gamines qui sont en troisième. Elles sont très, 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 très amies. Elles sont d'origine différente, sociale différente. Et ça va jouer dans le film. Et puis, il y a une des trois qui est victime d'une agression par un garçon. Ça va être filmé, mis sur les réseaux sociaux. Et ça va s'emballer contre les filles, contre elle. Ça va tout le quartier va s'emballer contre elle. Et parallèlement à ça, il va y avoir le cheminement de ces trois copines où l'une habite en zone pavillonnaire, les autres en HLM. Et celle en zone pavillonnaire, elle a des parents un peu plus petits bourgeois qui vont essayer de l'inscrire dans un lycée parisien, enfin pas parisien, mais de la ville de Sens, ça se passe à Sens, mais vont l'inscrire dans un lycée et l'éloigner de ses copines. Tout ça, c'est très compliqué.
Et la séparation.
Séparation, l'amitié, tout y est. Et les rôles des réseaux sociaux, c'est très très fort dans le film.
Alors avant qu'on attaque la dernière journée, le dimanche 19, ça y est, je voudrais qu'on parle des scolaires. Parce que les séances commencent à 15h30 du lundi, enfin voilà, les jours où il y a pas les enfants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent « Mais pourquoi ça commence à 15h30 ?» Parce que avant, le matin, c'est réservé aux scolaires.
Oui.
Et il y a des séances prévues pour eux.
Oui, alors il y aura des scolaires, des maternelles qui vont venir voir Chaudelot-Mouton.
Ah bah oui.
Il y aura des primaires qui vont venir voir Léo, parce que Léo, c'est quand même extraordinaire, parce que ce Léo-là, c'est Léonard de Vinci.
Léo de Vinci, oui.
En France. Et c'est un dessin animé qui a une animation qui a été primée à Annecy, qui est un grand film, donc ils vont voir tout ça. Et on leur propose aussi d'autres films. Pour l'instant, on est en cours d'inscription, là.
Ah, il n'y a pas encore
finalisé.
Toutes les choses, on le saura plus tard, alors, d'accord. On va le savoir le 20. Le 20 octobre, à la soirée de programmation,
on saura tout.
D'accord. Alors, on part sur le dernier jour, le dimanche 19 novembre, là où ça va commencer à bien discuter, où les choses sont posées, tous les films en compétition sont passés. Et là, ça va être les discussions, le jury va se réunir, va se mettre d'accord, enfin essayer de se mettre d'accord sur les prix. Et je rappelle, ce qui est assez fou aussi, c'est qu'il n'y a pas de dénomination d'un prix.
Non.
C'est eux, en fait, qui choisissent et par rapport au film.
Voilà, et les prix qu'ils veulent donner.
Ça, c'est beau aussi.
Voilà. Prix du scénario, prix de la réalisation, ou prix du meilleur du comédien.
Prix de l'interprétation.
Voilà. Oui.
Prix des décors aussi, c'était assez fort, ça.
Voilà.
Donc, c'est vrai qu'ils ont, le choix des armes.
Oui.
Et ils l'utilisent bien. Et on a des prix assez atypiques et c'est vraiment hyper intéressant.
Oui.
Alors, on commence le matin à 11h, les festivités avec Rosalie.
Ah oui.
Ah, bah oui, Rosalie.
Rosalie. Rosalie que son père tient absolument à marier et qui veut absolument se marier. Cette Rosalie, parce qu'elle a quand même un problème grave et qui n'est pas un problème de santé. Mais un problème qui risque de repousser son mari. Et c'est vrai que Rosalie, c'est un film extrêmement étonnant, attachant. C'est le deuxième film de Stéphanie Di Giusto, et qui va nous parler finalement avec des comédiens magnifiques.
Nadia Tereskevitch.
Alors qui était déjà dans Les Amandiers, extraordinaire.
Ouais.
Et à ses côtés, Benoît Magimel. Qui va être un mari qui va avoir bien des choses compliquées à assumer, à vivre. Et c'est vraiment très étonnant. Ce couple est très étonnant. Il tient un bistrot à côté d'une usine où les ouvriers viennent boire dans ce bistrot. Et le bourgeois local, qui est quelqu'un de assez psychorigide, c'est Benjamin Biolay qui l'incarne magnifiquement bien.
Et de l'autre côté, dans une autre salle, on aura Les Colons, présence de la co-scénariste sous réserve Antonia Girardi, c'est
voilà. Alors, Les Colons, ça nous raconte comment s'est créé un pays comme le Chili. Il s'est créé d'abord sur l'extermination des peuples premiers, commandité par des Blancs qui veulent s'installer sur un territoire. Puis on va avoir les Blancs qui vont se retrouver, qui sont effectivement installés avec tout un environnement bourgeois, qui ont réussi, qui sont à la tête du pays. Alors il y a l'Église, il y a le pouvoir politique, tout ça qui se trouve réuni dans une belle réunion, là, où on évoque toutes les horreurs qu'on a pu... Heureusement qu'il y a des horreurs qui sont montrées en début du film. Le film est un peu comme un western au début, et il y a des scènes assez violentes. Mais là, il y a des scènes qui vont être racontées, heureusement, parce que je crois que c'est les scènes encore les plus violentes qui sont racontées, donc heureusement qu'on est à distance. Et puis on se dit que pour faire nation, il faut que ces peuples aborigènes soient intégrés. Donc on va se raconter l'histoire et on va leur demander de participer à ce récit national, qui est quand même tout à fait différent de la réalité. C'est un film étonnant, je trouve, sur comment se sont créés beaucoup de pays d'Amérique latine, je pense. Et beaucoup de pays en général. Pour les États-Unis, on connaît un peu cette... Mais pour beaucoup de pays d'Amérique latine, on ne sait pas trop, on pense pas trop que c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire la conquête du pays, des territoires, sur les peuples d'origine.
Mais oui. Alors, on aura le même dilemme à 14h avec Le Temps d'aimer.
Oui.
De Katell Kileveré avec Anaïs de Moustier. Moi, j'adore cette actrice.
Et elle est formidable de gravité dans ce film. On la voit beaucoup dans des comédies, mais là, elle est étonnante de gravité aux côtés de Vincent Lacoste. Enfin, voilà, c'est une femme qui est marquée par la fin de la guerre, qui a été rasée à la Libération, qui a donc des choses à faire oublier, à se faire pardonner, et qui va rencontrer un garçon qui va tomber follement amoureux d'elle. Et effectivement, il a certainement aussi des choses, lui, difficiles à cacher aussi, parce qu'on ne se rencontre pas par hasard avec chacun son secret. Et voilà, ils vont essayer de faire du chemin ensemble, ça va être très beau. Et je trouve que Katell Kileveré a un talent fou pour nous faire vivre des personnages et nous raconter des histoires qui sont en même temps en écho avec le monde qui les entoure. Enfin, c'est jamais comme ça, ça vient de nulle part. C'est des histoires qui nous touchent au cœur sur des choses autour de nous, réalités.
Oui, oui. Et l'autre film en face que j'ai découvert au Festival international du film historique, c'est Captive Arnaud Despalières avec Mélanie Thierry, Marina Foy, mais aussi Josiane Balasco, Dominique Frohot, Yolande Moreau.
Oui.
Un sacré casting.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est une évocation d'un roman qui s'appelait Le Bal des Folles. Et qui raconte l'histoire de la Salpêtrière. On retombe encore sur des problématiques enfermement des femmes pour des raisons très multiples et variées. Et comment ces femmes sont maltraitées, vivent comme dans une caserne, sont vraiment en absence de liberté. Et puis, un jour, elles ont le droit à sortir, à mettre des costumes et à être regardées parce que par un tas de voyeurs qui sont venus là assister à ce bal des folles, justement. Et c'est cette façon de filmer d'Arnaud Despalières, je trouve qui est extraordinaire, où il filme souvent le détail. Et c'est par le détail des mains, d'un visage. Ça commence par les mains de Mélanie Thierry au début, je me souviens. C'est très beau.
C'est beau, oui, parce qu'on se demande ce qui se passe, pourquoi ses mains. Et puis petit à petit, on voit.
Oui.
Ça change et on nous montre justement qu'on a l'impression que c'est une dame une chic qui est en balade et en fait non, elle est menottée.
Oui, voilà. Donc on va,
elle est entravée.
On va découvrir pour quelle raison elle vient là, qu'est-ce qu'elle y fait et qu'est-ce qui se passe. Et puis avec des personnages magnifiques, Josiane Balasco dans un personnage d'une dureté extraordinaire et qu'on n'attendait pas du tout.
Mais d'ailleurs,
avec sa part d'humanité.
Ouais. En parlant de Josiane Balasco, je peux te passer un petit extrait parce que je l'ai rencontrée justement au Festival international du film de fiction historique et elle nous a parlé de son rôle dans Captive.
C'est un personnage très... Je dis, mais il est extrêmement méchant. J'ai dit, mais non, ça me dérange pas. Hein. Mais je veux dire, mais elle me dit pas du tout. Pas du tout, il n'y avait pas que méchante. Elle a... Donc c'est vrai que au fur et à mesure, on va découvrir que Marie-Grégoriette Botard est toute dévouée à sa mission, même si pour nous, ça paraît cruel, les traitements qu'ils imposent à leurs prisonnières, à leurs patientes, à la Salpêtrière, à leurs pensionnaires. Mais c'était la réalité de l'époque. Donc, elle faisait que suivre elle était vraiment très, très fan de Charcot et elle l'avait secondé. Elle faisait que suivre ses préceptes. Et pour elle, c'était une manière d'essayer de sauver ces femmes qui étaient là pour différentes raisons.
Et oui, et ce personnage qui est un personnage aussi attachant parce qu'il a une forme d'humanité aussi. Mmh. Ils ont tous une forme d'humanité. Et Mélanie Thierry est à la recherche de sa maman.
Oui, ouais, voilà. Qui est jouée par un personnage, qui est jouée par une personne incroyable.
Oui, aussi. On ne va pas dire non parce que
c'est très fort. Non, juste le personnage s'appelle Émilie.
Oui.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse avec une petite fille.
Oui, 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 voilà. Aussi. Il y a une petite fille qui est magnifique dans cette histoire aussi, oui.
Il y a vraiment des rôles. Je parlais aussi du rôle de Dominique Fraud.
Oui.
Qui est aussi très, très fort, parce qu'au début, entre Mélanie Thierry et elle, ça passe pas du tout.
Bien sûr.
Et petit à petit, ils s'aperçoivent que bah, c'est beaucoup mieux de s'entraider.
Oui.
Que de se mettre des bâtons dans les roues, on va oui. dire les choses comme elles sont.
C'est ça.
Donc c'est, et puis leurs conditions, hein, leurs conditions de vie. Marina Foy, elle est aussi, elle est glaçante, quoi. Je crois que c'est elle la plus glaçante entre,
entre
Josiane Balasko et Marina Foy.
C'est elle qui est glaçante et qui prend des décisions très violentes aussi, très dures.
Ah oui, oui, les punitions sont vraiment à la hauteur de sa cruauté. Mmh. Je pense qu'elle prend beaucoup de plaisir. J'aimerais parler avec elle justement du fait de son personnage, mais oui. C'est vrai que c'est très fort. On continue avec à 16h30 aussi un choix cornélien entre Bonnard, Pierre et Marthe.
Oui.
Et Rien à perdre.
Ah oui, parce que c'est assez. Je ne saurais pas quel film conseiller là.
Ah oui, tu vois, hein, ça va être hyper compliqué.
Parce que Bonnard, c'est comment Marthe a été le modèle, mais aussi une femme importante dans la vie de Bonnard. Comment ils appartiennent à deux milieux très différents et comment ils vont s'entendre, comment va se former ce couple, finalement, et les difficultés de ce couple.
C'est un souffle d'amour.
Ah oui.
C'est une course effrénée d'amour, de poésie, de peinture. On voit des choses magnifiques, des révélations aussi. Je trouve que Cécile de France, elle est... impressionnante en Marthe, quoi.
Ah oui, tout à
fait. C'est, elle est bluffante.
Oui.
Et Vincent Macaigne...
méconnaissable.
Oh là, méconnaissable. C'est fou.
Il paraît qu'il a beaucoup maigri pour le rôle.
Ouais.
Ouais. Mais il est extraordinaire.
Incroyable.
On le reconnaît à peine. Enfin, et il forme un duo extraordinaire avec ces problématiques qui sont le créateur et puis le milieu dont il est originaire et qui l'aide à vivre finalement, qui l'accompagne, hein, qui est son mécénat. Et puis elle qui sort du peuple et qui va. Bon, voilà.
Sa puissance, sa joie, son intérêt pour la vie, de croquer la vie à pleines dents, même si des fois elle s'y brûle.
Oui, oui,
C'est très, très beau. Et puis, oui, un film complètement différent, Rien à perdre, Virginie Efira, et une histoire assez très, très forte aussi avec cet enfant et cette problématique, une chose qui va se passer.
Voilà.
Et savoir si on lui laisse ou non la garde de son enfant.
Ouais. Et Virginie Efira incarne ce personnage qui est une fille du peuple, qui n'a pas fait beaucoup d'études, hein, qui est une fille qui bosse dans un bar le soir, elle laisse ses enfants seuls, et puis un jour, il y aura un accident, il y en a un des deux enfants qui va faire mettre le feu à la cuisine, etc. Donc, les services sociaux vont s'intéresser à ce cas, et vont penser qu'effectivement, ces enfants sont abandonnés et maltraités, enfin, du fait, et vont essayer de lui enlever ce petit dernier auquel elle est attachée, comme à ses deux enfants, parce qu'ils font équipe, ils font famille, tous les trois.
Ouais, c'est très fusionnel, c'est très fort ce qui se passe entre eux. Et si t'enlèves quelqu'un, là, c'est la fin du monde, quoi. Ouais.
Et le rôle de l'aîné est absolument magnifique aussi.
Oui, oui.
Et Efira...
C'est Félix Lefebvre, non, qui joue l'aîné, hein.
Oui,
c'est ça, le plus grand.
Oui, ouais. Et Virginie Efira est extraordinaire en mère lionne qui veut récupérer ses enfants, qui les aime, qui... Voilà.
Elle est souvent dans les programmations, on l'a vu dernièrement dans Mademoiselle Collins, on l'a vu dans pas mal de choses. C'est vrai qu'elle est, elle est vraiment flamboyante et elle mérite d'ailleurs son César. Hein,
oui, tout à fait.
100%. Et puis à 19h, on a le palmarès, ça y est, les choses sont faites, les jurys se sont mis d'accord et on a cette annonce du palmarès.
Tout à fait.
Qui va... Et ils vont nous donner leur avis et leur décision. Hein, Et puis là, voilà, il ne faudra pas chercher. Et cette année, surprise, d'habitude, on passe les films qui sont promus et on a un film de clôture.
Voilà, on a décidé cette année, ce serait différent, qu'on avait. Alors, on voulait mettre un peu en valeur ce film, le dernier film de Thierry Cliffa qui s'appelle Les Rois de la Piste, qui est extrêmement drôle, une comédie policière d'une drôlerie très réussie, très enlevée, avec Fanny Ardant, un chef de gang, si je puis dire, qui gère ses enfants, qui font des larcins, des vols, qui volent dans des maisons, etc. Jusqu'au jour où ils vont voler un tableau de valeur. Et là, d'un coup, ça va mobiliser les compagnies d'assurance, la police, etc., à leur trousse. Et comment l'affaire va avancer ? Vont-ils tomber ? Vont-ils s'en sortir ? Vont-ils échapper ? On ne sait pas trop. Et c'est comme toute l'histoire policière, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je voudrais signaler Nicolas Dufauchel dans...
Ah bah oui, ah oui.
Il est absolument étonnant, je ne dirais pas comment il apparaît, comment il va devenir dans le film, mais il est étonnant, surprenant, et il joue de façon magnifique.
Voilà, donc un beau film de clôture. Oui. Alors, on va parler de la billetterie hein, pour finir. Oui. Il y a les passes du festival.
Oui.
Il y a des nouveautés cette année. Il y a le pass 3 films à 18 euros, le pass 6 films à 33 euros, voilà. Le pass 9 films à 45 euros, le pass 12 films à 54 euros et le pass 24 films à 96 euros.
Ce qui veut dire que c'est un tarif dégressif, si oui. Je puis dire que
oui, tout à fait.
Si on réserve pour beaucoup de films, on va payer 4 euros la place, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment tout à fait abordable et tout à fait possible, disons, que
ah bah oui,
dans un budget.
Oui, non, mais si voilà. Les gens sont cinéphiles et veulent faire tout le festival,
ils peuvent le faire.
Du pain béni. En plus, parce que le billet à l'unité vendu au VO de Muret, c'est 9,90 euros.
Oui. C'est le prix du billet. Alors, pour nos abonnés, les adhérents de l'association Vive le cinéma à Muret, c'est
8,50
euros. Voilà. Oui. C'est 6,40 euros, 6,50 pour les adhérents.
6,40 euros, voilà.
Mais c'est... Voilà, on a tout à fait intérêt à prendre un pass et sur notre site.
Ah bah oui. Et puis, les moins de 14 ans, 5 euros. Et les enfants, pour les films de moins d'une heure, 4,50
euros. Ce sera le cas de Chaune le Mouton.
C'est ça, tout à fait. Donc, voilà. L'achat du pass, hein, uniquement sur réservation sur le festival du film Muret.fr, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, festival du film Muret.fr, tout attaché.fr. On retrouve tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le catalogue est en ligne, la programmation est en ligne, tout ce qu'on vient de discuter ensemble, tout cela on le retrouve sur le site festival du film de Muret.fr.
Et la limite de réservation, c'est le 9 novembre
oui.
2023. Donc, allez-y, parce que ça part vite, les passes, hein,
oui.
Si je me souviens bien.
Et puis, si on n'a pas réservé, parce qu'il y a des gens qui disent « mais moi, je veux improviser », etc., on peut toujours acheter des places à l'unité et se rendre au cinéma. On peut se garer au cinéma.
Oui.
On pourra manger. Il y aura des assiettes
froides
qui seront vendues.
Il y aura des assiettes au premier étage.
Et des desserts au premier étage qui seront vendus, voilà.
Pour reprendre des forces après
oui.
Avoir vu les films.
Parce qu'on vient pour voir des films, mais on vient aussi pour un petit peu se restaurer aussi entre les films.
Oui, passer un bon moment et discuter aussi.
Oui.
Il y a beaucoup de partage. Hein.
Voilà.
Justement, en haut, au premier étage,
voilà,
il y
aura beaucoup plus de place. Il y aura beaucoup plus de place, puisqu'il y aura la salle à côté qui va être ouverte au public. Donc, voilà, ça sera... se rencontrer, se retrouver, boire quelque chose de chaud, de froid, manger.
Voilà, donc rendez-vous hein, à partir du 11 novembre
voilà.
Jusqu'au 19 novembre.
Tout à
Une
fait.
Sacrée programmation. Merci
oui.
Beaucoup, Jo, d'être venue nous la présenter. Et puis, on a parlé du film d'ouverture
oui.
Avec Double Foyer. Et il y a une musique, tu nous as parlé d'une musique, donc on a un
que
petit
dans
extrait.
La tête, oui.
Voilà, mais pour finir cette émission,
oui.
Je pense qu'on peut finir avec cette émission du film, de la BO, du film Double Foyer.
Merci.
Parce que ça nous ressemble, nous n'habitons pas ensemble, par et pour le durable, séparé. Inséparable, sans tambour, de moitié, simple amour, de foyer, sans tambour, de moitié, simple amour, de foyer, sans détour, de loyer. L'amour de foyer.
C'était Chaud Devant, Festival international du film de Muret, où on vous a parlé de la programmation. Merci énormément, Joloubé, d'avoir été avec nous.
Et merci à toi de me recevoir. Et merci pour cet échange que nous avons eu. Nous avons eu plaisir toutes les deux à parler de grands films, de beaux films.
Et
voilà.
Et donc rendez-vous du 11 au 19 novembre au Festival international du film de Muret. Et avant, à la soirée de programmation, de préparation, oui, où on montre un peu tout avec les courts-métrages dont on a parlé, le vendredi 20 octobre. Soyez au rendez-vous.
Tout à fait. Merci.